Radio Prague, les informations. Bonjour, la réunion entre le probable futur Premier ministre Bohuslav Sobotka et le président de la République se tiendra vendredi. La police tchèque ne possède plus deux présidents et puis enfin en sport, en hockey sur glace, 17 joueurs de la NHL représenteront la République tchèque lors du tournoi olympique. Le chef du Parti social-démocrate et probable futur Premier ministre, Bohuslav Sobotka, a informé les médias ce mardi de sa prochaine réunion avec le président de la République, Miloš Zeman. Le futur Premier ministre apportera au château l'original de l'accord de coalition qui a été signé lundi. Il demandera également au chef de l'État de nommer le nouveau gouvernement tripartite sans ajournement. Le porte-parole du bureau présidentiel a refusé de parler d'une date précise à laquelle les nouveaux ministres pourraient accéder à leur poste. La police tchèque ne possède plus deux présidents, comme cela a été le cas depuis quelques semaines. Le ministre de l'Intérieur, Martin Pecina, a annulé ce mardi l'acte de nomination de Martin Červíček, qui occupait le poste de président depuis un an et demi. Petr Lessy, qui avait retrouvé son poste début décembre dernier après avoir été suspendu de ses fonctions en août 2012, redevient donc à compter de ce mercredi l'unique président de la police. Petr Lessy a toutefois précisé qu'il était prêt à présenter sa démission au nouveau ministre de l'Intérieur lorsque la coalition gouvernementale qui se met actuellement en place sera nommée. Suite à l'explosion survenue le jour de l'an dans la résidence de l'ambassadeur palestinien à Prague, dont la victime était l'ambassadeur Jamal Al-Jamal, la mairie de Prague-Sourdole, où l'autorité palestinienne avait acquis un terrain pour y installer ses représentants, se révolte contre ce projet. Le maire Petr Hail appelle au ministère des Affaires étrangères pour qu'il impose le transfert de l'ambassade. Cependant, le ministère ne dispose pas d'une telle prérogative. Selon Petr Hail, une présence policière accrue dans le quartier ne constitue pas un remède adéquat à ce que des événements semblables ne se reproduisent plus. Économie, malgré un mois de décembre très positif avec une augmentation de 14%, les ventes de voitures particulières en République tchèque ont baissé de 5,3% en 2013 et se sont élevées à près de 165 000. Les chiffres ont été communiqués ce mardi par la Fédération des exporteurs automobiles. Sans surprise, la marque la plus vendue reste Škoda avec près de 50 000 véhicules, soit un peu plus de 30% des parts du marché. Derrière le constructeur tchèque, filiale du groupe allemand Volkswagen, figure Hyundai dont les usines sont installées en Moravie du Nord et Volkswagen. Les constructeurs coréens et allemands ont vendu respectivement un peu plus de 16 200 voitures pour le premier et 14 940 pour le second. On passe au sport et hockey sur glace. L'entraîneur de l'équipe de République tchèque, Alois Adamčík, a communiqué lundi soir la liste très attendue des 25 joueurs qui disputeront le tournoi olympique à Sotchi en février prochain. Dans cette sélection figurent 17 joueurs évoluant dans la prestigieuse ligue nord-américaine NHL et notamment la superstar Jaromír Jágr, 5 dans la ligue continentale KHL et 3 dans l'Extraliga, c'est-à-dire le championnat national tchèque. Sacré champion olympique pour la seule fois de son histoire à Nagano en 1998, la République tchèque débutera le tournoi par un match contre la Suède le 12 février. Les deux autres adversaires des Tchèques dans le groupe C seront la Lettonie et la Suisse. On termine ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps presque printanier et essentiellement ensoleillé qui continue de régner sur la majeure partie du territoire ce mercredi, jour de la fête des Vladan et Walter. Comme ces dernières semaines, les températures restent assez nettement supérieures aux normales saisonnières puisqu'elles varient entre 7 et 11 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre magazine d'actualité tchèque, le quatrième de l'année 2014. Merci à Guillaume pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce mardi, l'équipe de Radio Prague vous propose une émission consacrée aux deux personnages qui devraient prendre la tête de deux ministères dans le futur gouvernement présidé par le social-démocrate Bohuslav Sobotka. Tout d'abord, nous allons parler de Daniel Herman, l'ancien directeur de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires et ancien prêtre catholique qui devrait occuper le poste du ministre de la Culture alloué au Parti chrétien-démocrate. Ensuite, Pierre Maignan proposera le portrait du candidat du mouvement Anon au poste du ministre de l'Environnement, une nomination qui a provoqué des réactions négatives de la part des nombreuses ONG actives dans le domaine de l'environnement. Enfin, dans la seconde partie de notre émission, Denisa Tomanova vous présentera un multi-instrumentiste français qui se donne le surnom Cascadeur. Bonne écoute à toutes et à tous. L'accord de coalition étant signé ce lundi, tous les partis ont complété la liste de leurs candidats au poste ministériel. Les chrétiens-démocrates, premiers à avoir réalisé cette annonce, ont à cette occasion confirmé les noms des trois hommes qui devraient prendre la tête des ministères de l'Agriculture, de la Culture et un autre sans portefeuille. Radio Prague vous propose une interview avec Daniel Herman, député de KDU-CSL et candidat au poste du ministre de la Culture. Âgé de 50 ans, Daniel Herman est l'ancien directeur de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires et un ancien prêtre catholique. En référence à sa proximité avec la religion catholique et interrogé sur la stratégie gouvernementale des chrétiens-démocrates, Daniel Herman n'exclut pas de tendre l'autre joue en cas de différend, une philosophie appliquée à la politique.
Cela dépend clairement de la situation concrète, mais je considère que cette recette, celle de tendre l'autre joue après avoir reçu une gifle, constitue une des manières possibles de résoudre certains conflits.
Cette stratégie risque de s'avérer utile également pour pouvoir naviguer dans les eaux de la coalition tripartite, car plusieurs sujets restent sensibles entre les partenaires gouvernementaux. Parmi eux, la question des restitutions des biens aux églises confisqués par le régime communiste, qui a le potentiel de semer la discorde entre la social-démocratie et les chrétiens-démocrates. Cependant, Daniel Herman relativise.
Je suis persuadé que la social-démocratie a invité les chrétiens-démocrates dans la coalition gouvernementale tout en étant consciente de notre position au sujet des restitutions des biens aux églises. C'est un élément sur lequel nous ne reculons pas. Je suis content que nous arrivions à mettre un terme à des problèmes issus du régime communiste plutôt qu'à les raviver.
Par le passé, les rapports entre certains membres du CSSD et Daniel Herman n'ont pas été parmi les plus cordiaux. Il a en effet été révoqué en avril dernier de son poste de directeur de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, notamment dû du vote des sénateurs sociaux-démocrates. Il considère toujours avoir été démis de ses fonctions pour des motifs politiques, mais ajoute que la CSSD était divisée sur ce sujet et qu'il s'agissait de quelques personnes ayant mené une campagne en faveur de son limogeage. Il avait également porté plainte contre sa révocation et la cour municipale du 3e arrondissement de Prague devrait se réunir à nouveau dans cette affaire le 26 février. Daniel Herman explique les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas retirer sa plainte.
Il s'agit d'une question de justice. Dans le cas de ma révocation, le code du travail a clairement été violé. L'inspection du travail est arrivée à la même conclusion, soit le droit est valide, soit non. Mon avocat et moi sommes persuadés que la justice a été violée et peu importe ma fonction actuelle, il faut que le procès aboutisse.
Quant à l'esquisse du projet qu'il porte pour son futur portefeuille, Daniel Herman souligne l'importance de consacrer au moins 1% du budget d'État à la culture afin d'arriver aux standards des autres pays centro-européens. Le ministère de la Culture, sous la tutelle de Herman, devrait se concentrer sur la stabilisation financière des 29 institutions sous son administration, comme le Théâtre national ou la Galerie nationale. Parmi les premières actions se trouverait, selon ses propres paroles, l'élaboration d'une conception nationale de la culture qui s'interrogerait sur la place de la culture dans la société tchèque d'aujourd'hui. Daniel Herman, qui utilise systématiquement le conditionnel présent dans ses propos, n'a pas souhaité dévoiler de démarches concrètes en attendant que sa nomination soit effective. Et si le nouveau gouvernement du social-démocrate Bohuslav Sobotka, que doit désormais nommer le chef de l'État Miloš Zeman, était celui du conflit d'intérêts, la question se pose particulièrement pour les ministres proposés par le mouvement de l'Action des citoyens mécontents à Nantes. Son leader Andrei Babiš, l'un des hommes les plus riches du pays à la tête d'un grand groupe agroalimentaire, entend devenir ministre des Finances. Ce dernier soutient également Richard Brabec, candidat au portefeuille de l'environnement et membre du syndicat de l'industrie chimique. Un sujet de Pierre Maignan.
Après que sociaux-démocrates, représentants du mouvement ANO et chrétiens-démocrates ont signé lundi à la Chambre des députés l'accord de coalition qui doit poser le fondement de la politique que mènera leur gouvernement, l'heure est venue de dévoiler la liste des 17 candidats au poste ministériel. Cette liste n'a pas constitué une surprise puisque les noms des ministrables circulaient déjà dans les médias durant le week-end. Leur confirmation a toutefois ouvert la voie à certaines critiques, notamment quant au risque évident de conflits d'intérêts que laisse entrevoir la nomination de certains ministres issus du mouvement ANO. Ainsi, le vice-président conservateur Miroslav Kalousek, top 09, ministre des Finances jusqu'en juin dernier, n'approuve pas le fait qu'Andrei Babiš devienne son lointain successeur.
Il n'est pas possible qu'une seule personne soit à la fois propriétaire du géant agroalimentaire Agrofert et également ministre des Finances. Il va s'agir d'un conflit d'intérêts sans précédent qui va forcément engendrer un environnement propice à la corruption, le plus grand sans doute de ces 20 dernières années.
L'autre personnalité visée par les critiques est Richard Brabec, toujours du mouvement ANO, directeur de l'usine de production chimique Spolana Neratovice, qui, selon l'ONG Arnica, était en 2012 l'entreprise tchèque qui relâchait le plus de matières cancérigènes dans la nature. Cet homme, passé par le parti de droite ODS, rejoint ensuite la tête de la société Lovochemie, un fabricant d'engrais détenu par le groupe Agrofert. Richard Brabec défend également les intérêts de ce secteur au sein du syndicat de l'industrie chimique. Il pourrait désormais être le ministre chargé de la protection de l'environnement, ce qui fait bondir les organisations écologistes. Martin Burchik, en charge actuellement du ministère de l'environnement dans le gouvernement démissionnaire de Jiří Rusnok, déclare ainsi à propos de son probable successeur.
Le potentiel conflit zájmu pana ministra est naprosto enormi.
Le conflit d'intérêt potentiel avec ce ministre est tout simplement énorme. Je vais m'acheter un billet pour les premiers rangs pour assister à la façon dont il va gérer la situation, mais je crois que c'est perdu d'avance.
Pour Andrei Babiš, il s'agit d'une posture politique. Si M. Brabec n'était pas son premier choix pour occuper le poste de ministre de l'Environnement, l'intéressé confesse lui-même que le ministère de l'Industrie aurait été plus adapté à ses compétences. Le leader du mouvement ANO ne doute pas que son poulain saura mettre de côté les intérêts de la branche chimique. Afin de faire taire cette mini-campagne contre M. Brabec, Andrei Babiš s'emploie également à redorer l'image de son entreprise en termes de protection de l'environnement.
Le groupe Agrofert a investi depuis 2008 et jusqu'à cette année 2014 4,7 milliards de couronnes, 170 millions d'euros environ, dans des projets écologiques. Ce sont des investissements dont nous n'attendons pas de retour.
Andrei Babiš termine en assurant que M. Brabec sera probablement un meilleur ministre que Martin Burčík. Le mouvement ANO, dont les membres se targuent d'être entrés en politique après leur succès dans le monde des affaires, propose quoi qu'il en soit des candidatures pour lesquelles il sera difficile de laver tout soupçon de conflit d'intérêts. La formation de M. Babiš a aussi proposé la nomination d'Antonín Prachař, le directeur général d'une société de transport au ministère des Transports. Notez qu'une loi contre les conflits d'intérêts concernant les membres du gouvernement leur interdit d'exercer des activités dans la sphère privée. En conséquence, les ministrables concernés disposent d'un mois à compter de leur nomination pour quitter leurs fonctions dans ce secteur.
Et c'est la fin de ces faits événements. Restez sur Radio Prague, on retrouve notre traditionnelle rubrique du mardi, la rubrique Panorama. Dans le cadre de sa tournée européenne, Cascadeur, alias Alexandre Longo, chanteur, auteur, compositeur, interprète français originaire de Metz, s'est présenté pour la première fois au public pragois à la fin du mois de novembre dernier au Palace Acropolis dans le quartier de Žižkov. Il se fait connaître du grand public en recevant le prix CQFD en 2008 du magazine Les Inrecuptibles. Mais ce n'est qu'en mars 2011 qu'il sort son premier album intitulé The Human Octopus. Si ce prix a été un tremplin d'espoir, Cascadeur avoue que cela a été plus compliqué par la suite lorsque, selon ses propres dires, il devenait un plus grand avion sans avoir toutefois suffisamment de kérosène. Quelques années plus tard, ses compositions atteignent un public toujours plus international. Cascadeur, habituellement seul sur scène, tel un homme orchestre, est venu accompagner cette fois-ci d'un autre multi-instrumentiste dont l'identité n'a pas été révélée, fidèle à l'atmosphère mystérieuse entourant le projet. En effet, Cascadeur porte sur scène une combinaison de motard avec un casque blanc orné d'une étoile rouge et son visage est parfois dissimulé sous un masque de luchador. Denisa Tomanova a eu l'occasion de rencontrer Cascadeur pendant les répétitions avant son premier concert tchèque au Palace Acropolis.
Panorama.
Panorama.
Now I'm lost, I waste my time, my days. I eat sometimes, I drink some wine, winner. I'm walker.
Quel est votre parcours musical?
Il est long. Moi, j'ai commencé, comme pas mal d'enfants, par la musique classique, le piano classique. Puis après, j'en ai eu un peu assez au bout de 8 ans et je commençais à jouer des trucs, enfin, plus pop, les Beatles, Joe Jackson, je sais plus ce qu'il y avait, Queen, des machins comme ça. Et après, j'ai fait pas mal de jazz. J'ai joué dans un quartet de jazz, dans un big band. Ben, je jouais aussi avec pas mal de copains, on faisait des reprises, comme ça, quand j'étais étudiant, comme pas mal d'étudiants. Dans les bars. Voilà, c'est un parcours un peu hétéroclite, mais qui m'a permis de côtoyer différents styles musicaux.
Sur scène, vous êtes seul?
Alors avant, c'est-à-dire que sur la première tournée, le premier album, j'étais tout seul, enfin sur scène. Et là, le nouvel album sortant là en février prochain, ça change, on est cinq, sauf ce soir. Parfois, il y a quelques concerts où on est moins, et là, c'est la première ce soir à deux. Donc voilà, c'est une famille beaucoup plus légère, qui sera plus acoustique. C'est un parti pris en fait. On va tout jouer en direct en fait.
Qui est, disons, Cascadeur? Comment il est apparu?
Ah, c'est un long cheminement aussi. Je faisais pas mal de morceaux qui n'existaient pas en dehors de chez moi. Et au bout d'un moment, ça devenait un peu invivable parce que j'avais un problème par rapport à ça. Je faisais beaucoup de concerts mais avec des amis, mais j'étais pas du tout le leader du projet. Je faisais des chœurs, je faisais des claviers. Au bout d'un moment, je pense qu'il y avait une sorte de pathologie quand même à mon attitude. J'avais vraiment du mal à exposer mon travail. Donc j'ai réfléchi à ça en me disant que ça ne me satisfaisait pas. Il fallait trouver une parade à ça. Et lorsque j'ai décidé de monter un projet qui n'avait pas encore de nom. J'ai composé des morceaux et je voulais revenir vraiment à l'essence de ma formation qui était donc le piano et puis la voix. Et ensuite, j'ai fait écouter ces morceaux à des proches et ils m'ont parlé de certains... Voilà, il y avait des concepts, il y avait l'idée de danger, de la difficulté de certains morceaux, de la hauteur sonore de la voix. Alors, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit c'est marrant parce que ça m'amène à quelque chose, la prise de risque. Je me dis, tiens, qui prend des risques et qui est caché? Et me sont venus plusieurs termes, et il y avait celui de Cascadeur. Et d'autant plus qu'en fond, j'avais un jouet qui s'appelait Cascadeur, qui était un motard blanc avec un casque, qui s'est lancé sur un tremplin rouge. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant, parce que au sein de Cascadeur, il y a plein de concepts qui me plaisent. Donc l'idée de doublure, l'idée du risque, l'idée d'anonymat. et le fait de jouer avec les différentes facettes, et en plus le rapport au cinéma. Je me disais que ça, c'était un terme qui, en fait, synthétisait plein d'idées qui m'étaient chères. Et voilà, donc à partir de ce moment, où j'ai le nom, j'ai construit un personnage. Je voulais pas que ce soit trop héroïque, justement. Et en plus, par la force des choses, il fallait que je sois seul. Parce que j'avais aucun moyen, j'étais vraiment tout seul. Je pouvais pas entraîner des amis avec moi. Donc c'était un drôle de cheminement, parce que ça m'a pris... entre le moment où je composais les morceaux, ça va être en fin 2004-2005, ouais, on va dire en 2005. Et les premiers concerts, c'est juin 2006. Donc c'est cool, plus d'un an et demi. Parce que j'ai vachement cherché. Et puis des instruments un peu particuliers aussi. Comment faire marcher un truc quand t'es tout seul sur scène. C'était un exercice voilà, spécial.
On dit de vous que vous arrivez à adoucir un peu le son des synthétiseurs. Mmh. Est-ce peut-être au son du piano? Quels éléments musicaux les composer
Oui, ben, en tout cas, dans le premier album, était essentiellement composé au piano. Après, sur le deuxième album, j'ai un peu changé. Je voulais aussi me mettre un peu en danger. Donc j'ai fait un peu à la guitare, mais je ne suis pas du tout guitariste. Et c'est ce qui me plaisait aussi. C'était voilà, de trouver des choses qui me plaisaient sans savoir jouer de l'instrument. Et donc ça m'a amené un peu ailleurs sur le nouvel album où il y a un spectre peut-être plus large, plus rythmique aussi.
Vous-même, vous qualifiez votre musique d'inqualifiable. Est-ce qu'elle ne fait vraiment partie d'aucun genre ?
D'un jeu. J'avoue que c'est fait de différents éléments, comme je disais, dans mon parcours. Il y a eu la musique classique, un peu de trucs, le chant lyrique qui m'a marqué. J'ai écouté pas mal de trucs comme ça, mais enfin, du fait de mes parents. Alors ça m'a influencé, je pense. Puis le jazz, l'improvisation. Je me suis intéressé un peu des musiques un peu plus expérimentales, des trucs contemporains. Mais... c'est un assemblage, je pense. Que, comme à la mesure de ma combinaison sur scène, de ma tenue de cascadeur, c'est une combinaison de son et d'ambiance musicale. Plus qu'une marque avec un truc prêt à écouter. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est assez hétéroclite. Switch on for colors. Switch on your lines. Switch on for
colors. Est-ce que selon vous, justement, les assemblages de genres musicaux, est-ce que c'est pas justement ce qui fait le succès actuellement de nos jours?
Le métissage, ouais, peut-être. Ben c'est peut-être les moyens d'apprentissage qui ont changé. Donc ça permet de franchir peut-être certaines frontières plus facilement dans un premier temps. Et du coup, il est plus facile d'entendre, je sais pas, une musique qui émanerait d'un autre continent qu'à une certaine époque. Donc du coup, alors c'est un peu bizarre parce que d'un autre côté, on n'a jamais eu autant de passerelles entre les mondes, et d'un autre côté, ce que je vois quand je visite des villes, c'est qu'il y a une uniformisation aussi. C'est que dans tous les lieux publics touristiques, tu retrouves les mêmes vêtements, les mêmes écharpes, les mêmes bonnets. Il y a juste l'inscription de la ville qui change. Il y a cette standardisation de la mondialisation, c'est toujours le paradoxe. Alors peut-être qu'en musique, il y a ça aussi. Il y a des gens qui connaissent plein d'autres musiques, et puis il y a des gens qui façonne le même son d'un continent à l'autre. Et c'est un peu troublant, ça. Donc, voilà, c'est paradoxal.
Vous êtes français, mais vous chantez en anglais. Pourquoi ce choix? Parce que l'anglais est plus mélodieux. Plus mélodieux.
Plus mélodieux. Non. Je pense que ça avait à voir avec le masque. Je voulais poursuivre l'idée du masque, parce que j'ai fait des choses, enfin j'ai écrit pas mal en français, et je pense que pour me masquer aux yeux notamment de mes proches, il fallait que je choisisse une autre langue. Et en France, on a un drôle de rapport aux langues étrangères aussi. C'est quand même pas très développé finalement, quand je vais dans d'autres pays, je trouve que les gens parlent souvent bien mieux que nous, l'anglais. C'est vrai que notre culture est quand même un peu fermée. C'est que tu regardes la télé en France, les films sont pas en VO, enfin c'est bizarre. Hein. Tu vas juste en Belgique ou en Suisse, tout est en VO. Je pense que ça porte atteinte aussi à la qualité de la langue qu'on pourrait pratiquer. Et je trouve qu'il y a toujours, moi je suis toujours un peu impressionné par ça, par le fait que je parle très rarement anglais en France. Donc quand j'arrive dans un pays où on me demande de parler anglais, c'est tout un travail, un exercice. Et ça me plaisait aussi assez finalement d'être un étranger. Enfin, j'évoque souvent ce thème-là dans mes morceaux, l'étrangeté et l'étranger. Et c'est vrai que bon, je suis une immigration. Je trouvais que c'était important de chanter dans une langue qui n'appartient pas à ma culture familiale aussi. Je pense qu'il y a, une forme de glissement de la langue comme ça qui me plaisait assez.
Vous êtes un peu comme un chef d'orchestre à vous-même. Est-ce que c'est plutôt libérateur, disons, de pouvoir tout faire tout seul, ou est-ce que c'est plus compliqué, justement ?
Mais il y a une soif, je pense qu'il y a une soif de contrôle. Non pas que je sois dictatorial, hein, c'est pas ça. Mais je pense que mon angoisse est là-dedans. Je dois me rassurer sans doute en ayant l'impression de maîtriser un certain nombre de choses. Mais je pense que ça a à voir là plus avec la psychologie. C'est vrai que le fait d'avoir été longtemps un homme orchestre quelque part, ça me faisait sans doute du bien. Et en même temps, je suis le premier à reconnaître toutes mes défaillances, plein de domaines que je ne maîtrise pas du tout. Donc c'était pas du tout en disant ouais, qu'est-ce que je suis puissant, qu'est-ce que je suis fort. Au contraire, c'est circonscrire peut-être. C'est comme une quête. Je pense que c'est une recherche quand tu fais un travail un peu artistique. C'est découvrir des zones, tes limites. Je me découvre pas mal par cascadeur. Et c'est pour ça que maintenant je suis heureux aussi d'être entouré avec des amis qui jouent avec moi. Parce que c'est pesant aussi d'être auto-centré par la force des choses. La folie, elle est peut-être plus dans cette extrême solitude par moment de la... Enfin, je pense à Kubrick... Ce truc de la maîtrise, du contrôle, tu le vois chez Kubrick. C'est vrai, dans Shining, cet écrivain face à la page blanche, il est aussi comme ça parce que finalement il ne voit plus que lui, et finalement sa famille, son fils, sa femme, il les détruit physiquement, mais il les a déjà détruits psychologiquement. J'ai une sorte de truc qui m'effraie un peu finalement dans l'idée de créer. Et c'est vrai que souvent, un écrivain notamment, il est seul. La musique fait que dans le moment de création, tu es aussi face à toi-même, à cette solitude-là. Et là, ça m'a fait du bien de renouer avec des êtres humains pour jouer les morceaux, et c'est appréciable. Je pense que c'est quelque part psychanalytique. Si tu ne replonges pas dans cette forme d'enfance, il y a des choses que tu vois trop tard ou que tu ne vois jamais, mais que tu te transportes quand même. C'est une drôle d'aventure, hein, parce que tu n'es pas prêt à ça. Enfin, de passer de l'ombre vraiment profonde. Une sorte d'éclairage, c'est dangereux, je trouve que c'est dangereux. Donc heureusement que j'étais masqué, heureusement que j'avais tout ça, parce que sans ça, sans masque, je crois que je pourrais pas le faire.
Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucia Drexalova. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy!